Oligocratie, d'après le dictionnaire Larousse, ça n'est pas répertorié. C'est un terme rare qu'il assimile à oligarchie. Oligarchie étant un système politique dans lequel le pouvoir appartient à un petit nombre d'individus. Alors, pour les représentants de l'oligocratie, et donc par induction pour le grand public, le terme oligocratie présente la particularité d'être rejeté par ceux qui en sont les acteurs internes. Ces derniers, les acteurs internes de l'oligocratie, prétendent être en réalité des protagonistes du système de la démocratie, posture qui les range objectivement dans la catégorie des usurpateurs. Ce hold-up sémantique des oligocrates sur le terme « démocratie » est naturellement relayé par la plupart des outils de communication de masse possédés par eux, ce qui explique que le grand public confonde ces deux termes et emploie couramment le mot « démocratie » pour désigner l'oligocratie. Alors, pour le mouvement de la décroissance, ce qui est proposé, c'est que nous préférions oligocratie à oligarchie afin de rester cohérent avec l'étymologie du terme au regard de sa comparaison avec monocratie et démocratie. De même que monocratie est la francisation du mot grec, du mot composé, monos plus kratein, monos voulant dire seul et kratein voulant dire commandé. Et démocratie, c'est l'association de démos, qui veut dire le peuple, et de kratein commandé. Oligocratie représente la traduction française de l'association du mot composé grec oligos, qui veut dire petit nombre, et kratein commandé. Au final, le terme oligocratie désignera un système politique dans lequel le pouvoir est exercé par un nombre restreint d'individus, tandis que monocratie désignera le pouvoir exercé par un seul individu, et démocratie, le pouvoir exercé par le plus grand nombre, c'est-à-dire le peuple. Concrètement, oligocratie sera employée par nous dans notre communication pour désigner le système politique ayant cours actuellement dans la très grande majorité des pays, dont naturellement la France. Donc voilà pour oligocratie. Est-ce qu'on débat là-dessus ou si on enchaîne sur démocratie Je pense qu'il faut peut-être rester un moment sur l'oligocratie.
Oui, une petite question historique, parce que je suis un peu nul. Est-ce que ces termes-là étaient déjà usités en Grèce à l'époque, où on a bidouillé, nous, des termes grecs? Parce que nous, on a jugé qu'à l'époque, c'était de ci ou de ça. C'est apparu quand? Ou alors le mot, il est apparu en Grèce, puis après il a disparu, après il a réapparu. C'est quoi l'histoire du mot démocratie, de l'oligocratie?
C'est une excellente question, c'est une question de linguiste. Ben, comme beaucoup de mots français d'aujourd'hui viennent du grec ou du latin, mais c'est nous qui disons que ça vient du grec et du latin. Alors, les Grecs...
Est-ce qu'ils en parlent?
Ah ben oui, alors il y a démocratie, oui, c'est démos et kratein, démocratie. Bon.
Parce que la question derrière ma question, c'est est-ce qu'à l'époque c'était déjà une usurpation? On va dire l'origine de la démocratie, si on prend celle athénienne ou je ne sais pas quoi, est-ce qu'à l'époque c'était déjà dans les toutes premières démocraties, est-ce que c'était une oligarchie déguisée? C'est ça ma question. Ou est-ce qu'on peut le savoir? Est-ce qu'on a les moyens de savoir ça? Ou est-ce qu'il y a des gens, par leur texte, qui déjà faisaient la même accusation que toi?
Alors, cette question me prend au dépourvu parce que je ne sais pas si dans l'histoire politique grecque, on a été... Les analystes de l'époque, Platon, Aristote et compagnie, ont été confrontés à la problématique de l'oligocratie. Donc je ne sais pas répondre à cette question. Monocratie, oui, puisque il faut voir que la République grecque, la démocratie grecque, c'est assez court, hein, ça a duré 200 à 300 ans maximum. Sinon, ça a été tout le temps de la monocratie. Il y a eu cette parenthèse de la démocratie. Alors, oligocratie, j'ai pas l'impression, mes connaissances en histoire grecque ne sont pas suffisantes pour pouvoir répondre à cette question.
De fait, parce qu'en fait, c'est une démocratie, mais qui était assise sur des esclaves. C'est-à-dire qu'il y avait quelques Grecs qui discutaient démocratiquement, mais c'était assis quand même sur une population.
Ouais, mais ça c'est un autre débat, ça.
Ouais.
C'est un autre débat.
Non, mais du coup, ça fait un petit peu oligocratie qui décidait pour tout le reste de la population.
Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que la démocratie grecque était une oligocratie parce qu'il y avait des métèques et des esclaves qui n'avaient pas la citoyenneté grecque. Ce serait plutôt un apartheid, hein, effectivement, avec une partie de la population qui était privée de ses droits civiques. Voilà. Bon, là, dans l'oligocratie, les gens qui ne sont pas au pouvoir, ils ne sont pas privés de leurs droits civiques. L'oligocratie, justement, a cette... faculté de dire c'est vous qui décidez tous, mais finalement on n'est que 3 ou 400 à prendre des décisions. Voilà, c'est ça le génie de l'oligocratie. Alors que ce que tu décris scan de sociologique de la société grecque, bon, c'était plutôt une société d'apartheid. Hein.
Ouais.
Disons qu'entre eux, entre citoyens, ils étaient vraiment en démocratie.
Ouais.
Alors on retrouve, c'est la première vie que tu sais, on la retrouve lorsque c'est posé la question du suffrage universel, hein, que bon, tant que personne ne votait, bon là il n'y a pas de problème, je parle de la France par exemple, hein. Bon, il n'y a pas de problème, c'était la monocratie. Après 1789, lorsqu'il y a eu la révolution, c'est posé la question de savoir jusqu'où est-ce qu'on allait donner le suffrage universel aux gens. Et c'est là le fameux discours du Marc d'Argent de Robespierre, puisque au départ, on a dit on va donner le pouvoir au peuple, mais en faisant un suffrage censitaire, c'est-à-dire que pour pouvoir voter, il fallait avoir déjà fallait prouver qu'on avait qu'on avait une certaine fortune. Hein, c'était le décret du marque d'argent. Il faut avoir un certain nombre de marques d'argent pour pouvoir voter. Voilà. Donc là, on était déjà sur une forme, mais qui n'était pas encore. C'est pas ça le principe de l'oligocratie. Là, on était encore sur un apartheid, c'est-à-dire certains sujets ont le droit de vote. Bon, mais ils vont quand même désigner un groupe restreint. En fait, le vrai débat, c'était c'est la période montagnarde, hein, 93-94, où c'était les sections et la commune qui étaient en concurrence avec la convention. Là, on avait vraiment d'un côté une oligocratie, c'est-à-dire les 400 ou 500 députés de la Convention qui aspiraient à gouverner seuls, et d'un autre côté, on avait une velléité de démocratie par la Commune et les sections, le mouvement sectionnaire. C'est là que ça s'est joué, en fait. Hein. Bon, ça c'est mon analyse, je ne suis pas le seul à avoir cette analyse.
Quand tu parles d'usurpation, ma question c'est... Est-ce qu'il y a déjà eu la démocratie, dans le sens qui a été pervertie, ou, au contraire, il y a eu un grand mouvement depuis toujours pour que, quand on accepte, par exemple, le suffrage universel, c'est pas forcément le seul caractère de la démocratie, mais de toute façon, quand on accepte le suffrage universel, on est déjà sûr que c'est une oligocratie, c'est-à-dire que on est toujours sûr qu'il n'y a jamais de démocratie. C'est ça, moi. Enfin, historiquement.
Oui. Alors, sur la Grèce...
A priori, d'après ce que tu dis, la Grèce, a priori, c'était une démocratie, si on oublie le côté apartheid. C'était une vraie démocratie, mais qui n'a pas duré longtemps, parce qu'après, bon, c'est putsch, hein, la putsch arrête directement la démocratie. Mais du coup, après celle d'Athènes, qui peut paraître la plus pure, j'en sais rien si on peut dire ça, est-ce que dans l'histoire, il y a déjà eu apparition d'une démocratie qui après a été arrêtée. Non. Ou alors, quand la démocratie apparaît, elle est déjà, il s'assure déjà que ce n'est pas une.
Bon, là on est au cœur du réacteur. Alors, la démocratie grecque, même la démocratie grecque, ce n'était pas une vraie démocratie. Parce que, bon, si on regarde bien le fonctionnement, il y avait la bolée, il y avait donc plusieurs. J'ai plus en tête le nom d'il y a, plusieurs assemblées qui se chevauchaient les unes les autres, qui étaient plus ou moins désignées comme ci ou comme ça. Il y en avait qui étaient désignées par tout le monde, mais d'autres qui étaient quand même déjà de l'oligocratie. Donc, à l'intérieur déjà de la démocratie grecque, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la démocratie grecque, par contre, je suis un spécialiste de l'époque 89-94 en France, hein, là-dessus je veux voir. Bon, mais sur la démocratie grecque, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'était pas une vraie démocratie au sens où les lois, par exemple, hein, non pas par exemple, mais le pouvoir, c'est le pouvoir législatif, et bien, dans le sens où toutes les lois sont votées par le peuple, non, la démocratie grecque, les 300 ans de démocratie grecque, c'était pas vraiment ça, c'était une approche sans plus. Par contre, là où ça s'est vraiment joué, et où je peux mieux en parler, c'est la période révolutionnaire française entre 1789 et 1794, surtout à partir de 1791 et 93, où là on a eu la possibilité de passer en démocratie. Bon, il ne faut pas oublier que la Révolution française s'est faite sous l'égide de l'espoir de la démocratie, c'est-à-dire qu'on va réellement donner le pouvoir au peuple, et que la constituante, bon, ils ont mis 2 ans pour faire la constitution entre 89 et 91, et c'était ça qui se jouait. Qu'est-ce qui sort de cette constitution? Est-ce que c'est vraiment une constitution qui donne le pouvoir de faire les lois à tout le monde ou pas? Bon, c'est là que ça s'est joué. Donc il y avait un courant qui voulait la démocratie en ce sens que les lois devaient être votées par le peuple et par le peuple assemblé. Hein, donc c'était le courant montagnard, Robespierre, Saint-Just, etc. Voilà, Couthon, et le courant girondin qui lui était partisan dans la droite ligne de l'annonce d'Emmanuel Joseph Sieyès du 9 septembre 1789, disant: les chers amis, nous avons fait la révolution pour donner le pouvoir au peuple, pour que le peuple fasse lui-même les lois, mais nous avons un petit problème, c'est que le peuple n'est pas assez instruit, premièrement, et n'a pas le temps, deuxièmement, de le faire. Donc nous allons faire autre chose que la démocratie, on va faire quelque chose qui s'appelle, il appelait ça à l'époque, le gouvernement représentatif. Et top, c'est parti de là, tout est parti de là. On veut mettre à bas la monocratie parce qu'on veut pas que ce soit un homme seul qui à la fois décide des lois et les fasse exécuter, et on veut que les lois soient faites par le plus grand nombre, et on est d'accord quand même pour qu'au niveau de l'exécutif soit géré par un groupe restreint. Ce qui se jouait, c'était de faire les lois, c'est-à-dire le pouvoir suprême, le pouvoir législatif, par le peuple assemblé. Bon, et ça s'est joué pendant 2 ans, c'était bon, voilà, la lutte de la Gironde et de la Montagne, et les Girondins ont gagné, et donc c'est l'oligocratie qui a pris le dessus sur la tendance, la pulsion, l'aspiration démocratique, mais du coup, on a gardé le mot démocratie, voilà.
Ok. Et donc, pareil pour la révolution américaine, anglaise, je ne sais pas si c'était pas avant, mais pareil partout.
Étant donné qu'ils avaient le modèle français, bon, pourquoi ne pas s'en servir? C'est, voilà. Et ensuite, tout le monde s'est aligné sur ce système. Alors, après, ce qui se joue, c'est l'assise. Quelle assise de légitimité à cette oligocratie? Alors, l'oligocratie a une légitimité maximale lorsque tout le monde vote. Là, on va dire, regardez, on est légitime, hein, on n'est que 577, mais on est légitime parce que tout le monde vote. Bon. Alors, elle a mis du temps à acquérir cette légitimité qui lui permet aujourd'hui d'être quasiment indestructible. Parce que il était facile à l'époque de dire, mais attendez, votre convention, comme bon, c'était le discours de Robespierre, votre convention, elle est élue par 2 ou 3 millions de personnes seulement. Voilà. Bon, effectivement, c'est plus un homme seul qui gouverne, mais c'est quand même. Bon. Alors, le suffrage universel total, il a été quand même très très long à venir, hein, parce qu'ensuite il y a eu bon, Bonaparte, etc. Hein, mais la restauration, il a fallu attendre 1800, la révolution de 1848, pour remettre le suffrage universel, parce qu'il me semble bien, quand même que Bonaparte numéro 3, Louis-Napoléon, lorsqu'il a été élu président de la République, avant de faire son putsch, il a bien été élu par un suffrage universel quasiment total, quand même. Hein. Bon, bon, c'est reparti patatras avec le Second Empire, et puis il a fallu bon, la Troisième République, et bon, que la Commune de 1871 arrive pour qu'on repasse au suffrage universel, mais il n'y avait toujours pas les femmes. Il a fallu attendre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour avoir enfin une oligocratie qui puisse dire « je suis légitime, vous ne pouvez pas dire « je ne suis pas légitime ». Alors que pendant tout ce temps, on a pu attaquer l'oligocratie en disant « mais attendez, bon, tout le monde ne vote pas ». Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'ils vont dire, mais regardez, on est légitime, tout le monde vote.
Ah non, ça revient, hein. Avec l'abstention, ça revient.
Avec
la montée de l'abstention, ça revient, ça.
Ah ben, c'est autre chose, c'est autre chose.
C'est un autre problème.
C'est un autre problème. Ben, c'est un problème central. Aujourd'hui, l'abstention doit être pour nous une arme argumentaire fabuleuse. C'est-à-dire, on pourrait même dire que nous sommes l'abstention et que du coup, nous sommes majoritaires. On pourrait...
Alors après, là-dedans, quelle est la place de la thèse où l'oligocratie, c'est toujours un corps intermédiaire, je sais pas, les marchands, ou n'importe quoi, ou les nobles, ou les militaires, ou je sais quoi. Enfin, à chaque fois, un corps constitué, intermédiaire, qui a des intérêts, ou plusieurs, hein, qui voilà. Et qu'il peut y avoir en monocratie un dictateur, c'est comme ça que se. Pas tous, certains se proposent de dire qu'eux, ils sont le rempart, ils sont plus représentatifs que la démocratie, entre guillemets, qui est fausse, ils sont plus représentatifs du peuple, et qu'ils vont protéger le peuple contre ces corps intermédiaires, hein, genre un roi qui traite ses paysans contre les marchands, je ne sais quoi, un Chavez. Serait pour le peuple contre les riches propriétaires, je ne sais quoi.
Un Castro.
Touba, machin, Castro, ou même en Corée, je ne sais pas quoi. Bah, mais est-ce que ça existe, cette tendance-là, de dire, comme la démocratie, c'est une oligocratie, l'oligocratie, c'est toujours les riches, entre guillemets, contre les pauvres, est-ce qu'un dictateur des pauvres, là, dans l'histoire, ça s'est vraiment fait, pour de vrai, qui est plus représentatif qu'une démocratie, bah, pas une vraie démocratie, ça n'existe jamais. Alors, ils prennent l'exemple de, comme la démocratie n'existe jamais, il faut un dictateur pour protéger les intérêts du peuple, un truc comme ça, une espèce de théorie comme ça.
C'est l'argument des royalistes. C'est celui-là, l'argument des royalistes. Les royalistes ou les souverainistes disent. Mais attendez, aujourd'hui, on est en fausse démocratie. Bon, nous aimons le peuple. Hein, d'ailleurs, les royalistes, le roi a toujours dit qu'ils aimaient le peuple. Nous constatons aujourd'hui que le peuple est asservi par la caste. Alors, tu as dit, c'est la caste des marchands. Hein, parce que l'oligocratie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des VRP du capitalisme. Donc, on revient dans le capitalisme mondial. C'est eux, bah, les Girondins, il faut toujours repartir de 1789. Les Girondins, qui c'est? Bon, ce sont des marchands, ce sont des capitalistes en herbe qui ne pouvaient pas faire ce qu'ils avaient envie de faire avec le système de la monocratie, de la monarchie. Donc, ils ont dit, il faut qu'on mette fin, bon, mettre fin à 10 siècles de mort anarchiste, c'était quand même pas très facile. On a l'argent, on a les idées, on a les matières premières, on sait ce qu'on veut faire, mais on n'a pas le système, on n'a pas, disons, l'outil, on n'a pas la construction, la base juridique qui nous permette de faire notre business. Donc, il faut mettre la monarchie à bas. Il se trouve qu'on avait un outil à disposition là, c'était le peuple qui avait faim. Et voilà, donc la caste des marchands a surfé sur la révolution de la faim, les émeutes de la faim, et a installé le système de domination de l'ensemble.
Voilà. Ça légitime un peu la position royaliste, mais
alors, à partir de là.
Quelle est la légitimité voilà. de cette position-là? Parce que tout le monde sait alors, que de toute façon, dès qu'on concentre un pouvoir dans n'importe quel machin, mieux est-il se vêtir de n'importe quelle propriété, c'est sûr que les gens disent bah non, vous allez être encore riche, puissant, vous n'allez pas faire social du tout, on n'a jamais vu des rois être dans la pauvreté, puis s'occuper de ses paysans. Le moment qu'il ne mourrait pas pour en enrôler quelques-uns dans l'armée, c'était ça, sa position sociale. Donc les gens ont quand même ce recul, fait que c'est un peu intenable, cette position. En oui. disant, moi, en tant que dictateur royaliste, je vais vous protéger. C'est un peu pas très légitime.
Alors, ils disent pas... Alors, l'argumentation, c'est pas « je vais vous protéger ». L'argumentation, c'est « je suis incorruptible ». C'est-à-dire que après avoir fait, parce que ce que je viens de dire là, c'est exactement l'argumentation, c'est la vérité, mais c'est aussi l'argumentation des royalistes qui disent les puissances de l'argent ont pris le pouvoir, les hommes politiques sont corrompus, sont des VRP, sont des commanditaires, ce qui revient au même. Et ça, pourquoi? Ben c'est parce que tout simplement, un député, c'est quelqu'un qui touche un salaire et puis qui touche des avantages, etc. Alors qu'avec une monarchie, vous êtes tranquille parce que nous avons, nous sommes incorruptibles, on est là de père en fils, on est inamovible, et vous êtes sûr qu'on va pas, on a aucun intérêt, on a nos émoluments qui vont être d'ailleurs votés par une assemblée, on n'est pas contre, voire élu au suffrage universel, parce que les royalistes sont pour des monarchies constitutionnelles. Attention. Bon. Et donc, nous allons avoir notre salaire qu'on a en Angleterre, avec notre appartement payé, fonction. Si vous voulez, mais on peut être pas trop trop riche. Ce qui est important, c'est que nous n'ayons pas besoin d'être corrompus, parce que nous n'avons aucun intérêt à ce que Saint-Gobain ou les Dassault viennent nous. Voilà. Bon. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est effectivement l'argument des royalistes pour dire qu'une une monarchie, elle protège plus, non pas le peuple, mais elle protège plus l'intégrité de l'État qu'une oligocratie.
Mais ça c'est le... Après, c'est Chouard qui arrive, qui dit que tout le monde est corruptible à la base, donc c'est n'importe quoi, cet argument-là ne tient pas. De toute façon, dès qu'on a une oligocratie, il y a de la corruption, donc il faut trouver des systèmes pour éviter la concentration.
Non, parce que...
Chacun surveille des rapports de force avec des gens qui surveillent les autres, les uns des autres.
Hein. Non, Étienne, il dit, ceux qui sont élus, c'est pour ça qu'il veut qu'ils soient tirés au sort, ceux qui sont élus sont corruptibles, parce que pour être élu, il faut avoir du fric, il faut pouvoir se payer des professions de foi, etc., etc. Bon, alors que le monarque, lui, va dire, mais je ne suis pas élu, donc je n'ai pas à me représenter devant les électeurs, et donc je ne suis pas corruptible. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, c'est l'argumentation qui est... en fait, Chouard, il remplace un décideur héréditaire par quelqu'un qui est tiré au sort. Mais ce que disent en tout cas les souverainistes et les royalistes, c'est nous ne sommes pas corruptibles. Justement parce que on n'a pas besoin de retourner aux urnes. Donc on n'a pas besoin d'acheter d'une façon ou d'une autre nos suffrages.
Oui, mais l'exemple du passé sur la Terre, c'est l'inverse. C'est encore plus facile de corrompre à juste une tête ou deux que tout un corps.
Bien sûr, si c'est un seul qui décide, c'est plus facile de le corrompre. Mais ce que dit encore une fois, je vais pas faire l'apologie de Royalis. Hein,
non,
hein.
Mais...
Bon, ben, mais c'était pour répondre à ta question. Ta question c'était, est-ce qu'il y en a pas certains qui disent que un dictateur c'est mieux pour le peuple? Si, il y en a qui le disent, qui essayent de le démontrer. C'est vrai.
C'est surtout il faut des exemples de ce qui se passe déjà, ou si c'est imaginaire, au moins des exemples qui montrent qu'il y a des forces en présence qui soient crédibles, pas toi, des choses crédibles.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que des exemples de démocratie, il n'y en a pas. Des exemples de vraie démocratie, il n'y en a pas. Alors, si il y en a, c'est Lévi-Strauss qui peut en trouver dans certaines tribus primitives où il y a, une vraie démocratie.
Oui.
Bon, mais à l'échelon. D'ailleurs, c'est très intéressant, hein, le cru et le cuit, Triste Tropique, c'est passionnant. Bon, mais au niveau d'une société, d'une collectivité étendue, il n'y a pas d'exemple historique. Bon, ça, c'est clair.
C'est des exemples d'oligocratie qui essaierait d'être le plus démocratique possible non plus. Les mecs qui se font chier quand même pour vendre leurs trucs et pour être au pouvoir, c'est pas pour se défaire de leur pouvoir ou de.
Mais ça s'appelle se tirer une balle dans le pied, ça. Non, ils font pas. Ils se tirent pas une balle dans le pied. Hein.
Ouais.
Non, celui qui vit.
Quand ils agiraient, il y a des mouvements du peuple qui anticipent et gèrent le mouvement du peuple pour leur donner une illusion, comme ça, et ils sont continués.
Ah ben, alors si, la grande technique de l'oligocratie, c'est de dire quelle est une démocratie, et c'est d'expliquer justement que. Il explique deux choses, l'oligocratie. Elle dit. Les lois seront meilleures. Elle dit deux choses. Les lois seront meilleures si c'est une expertocratie intelligente qui les vote plutôt que la crasse du peuple. Donc là, ça c'est le discours Emmanuel-Joseph Fillies, on connaît, il date du 9 septembre 1789. Bon. Et puis, elle dit aussi une deuxième chose. Elle dit, la démocratie directe, c'est vrai que si on discute bien, c'est vraiment génial, c'est formidable, mais ça n'était impossible. Voilà. Et puis ça fait partie des axiomes qui mettent fin à la discussion. C'est impossible. Voilà. Et impossible. Comment voulez-vous que 50 millions de personnes votent les lois en permanence? C'est impossible. C'est même pas à peine de discuter. J'ai pas de temps à perdre. J'ai un train à prendre. On discute pas de ça. C'est impossible. Voilà. Bon. Donc il y a ces deux arguments qui font qu'il n'y a pas de débat. Sur la. Alors, la démocratie, ça.
Parce que ça se mord la queue, parce que donc un système pour les experts par les experts, donc comme tu avais dit, complexe, foisonnant, compréhensible, etc. Et du coup, comme c'est la référence de comment est géré le monde, il n'y a pas écrit on va gérer le monde avec 20 lois très claires et que tout le monde auront le temps et la compréhension, et qu'il n'y en a que 20, quoi. Les gens n'ont pas cette référence-là pour gérer un pays.
Oui. Alors, ça c'est intéressant. Il y avait sous Saint-Louis, il y avait la loi salique. Alors la loi salique, il y avait 100 lois. On gérait. C'est presque le mot.
Le
bisduc ne
peut pas plus.
Parce que Saint-Louis, Charlemagne, Saint-Louis, c'était quand même le premier empire le plus grand. Donc il y avait 100 lois pour gérer. Alors aujourd'hui on te dit, ouais, attendez, bon, la société d'aujourd'hui est beaucoup trop complexe, il faut beaucoup plus de 100 lois. Aujourd'hui on en a 140 000 en France. Bon. C'est impossible. Une société complexe, ça veut dire des milliers et des milliers de lois. Donc comment voulez-vous que des milliers et des milliers de lois soient votées tous les jours par le peuple assemblé? Et là tu dis, mais non, une société même complexe. D'abord, votre société complexe, elle va se décomplexifier toute seule. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais même votre société complexe aujourd'hui, elle peut se gérer avec 100 lois, si c'est possible. Non, arrêtez, j'ai un train à pendre. C'est une discussion qui n'est pas possible. Voilà. Bon. Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut dire. Ensuite, il y a une autre chose. C'est Einstein a dit on ne résout pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. À partir du moment où on pense que la société industrielle capitaliste croissantiste elle a un problème tout simplement vital de durabilité et que on va être obligé de le régler, par exemple d'avoir un système post-croissance pour gérer une société contrainte, on ne va pas pouvoir la gérer avec le mode de pensée qui a créé la société croissante. Et ça, par contre, c'est inimaginable. Là, nous, c'est nous qu'on dit j'ai pas le temps d'en discuter, il faut que je prenne mon train. Parce que si c'est pour gérer la décroissance, on ne peut pas le gérer avec le mode de pensée qu'il a créé. Le mode de pensée qu'a créé la décroissance, c'est les mecs qui sont à l'X, qui sont à Centrale, qui sont à l'ENA. Hein. Bon, comme disait très bien Yves Cochet, ils n'ont pas le logiciel pour gérer la décroissance, ils ne savent pas faire. Ils ne savent faire qu'une chose, gérer la croissance. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on apprend dans les écoles de pouvoir, à HEC, à l'ESSEC, je le sais puisque j'ai fait. Bon, voilà. C'est là qu'on t'apprend, t'es fer de lance de l'économie, on ne t'apprend pas du tout comment on fait pour gérer une société contrainte. On t'apprend justement à gérer une société qui a des ressources illimitées. Donc, il n'y a pas d'exemple de démocratie directe, c'est-à-dire d'exemple que c'est le peuple qui vote les lois, mais par contre il y a l'exemple de ce que ça donne quand c'est une caste des marchands restreinte qui vote les lois. On voit ce que ça donne, c'est-à-dire une société mondiale qui va dans l'impasse. Donc tu peux te dire je risque pas de faire pire avec le peuple. Voilà, bon, c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas qui vaut la fin de non-recevoir que t'opposent les oligocrates lorsque tu leur parles de la démocratie directe.
Juste un petit aparté sur les lois. En Angleterre, il n'y avait pas de loi écrite jusque assez récemment. Hein. Il y a moins d'un siècle qu'ils ont commencé à écrire des lois. Sinon, tout était des lois orales, il n'y avait aucun texte écrit.
Oui, alors, bon, il y avait la Magna Carta. Quand même, bon, mais c'est autre chose. C'est pas incompatible. Les Anglo-Saxons,
avec notre système hyper compliqué avec 140 000 lois, quoi. On peut gérer un pays sans avoir uniquement sur des valeurs morales et voilà. Ça
tenait. Oui, c'est un petit peu. Enfin, à mon sens, c'est plus nuancé que ça. C'est-à-dire que, bon, la France, disons, on va, pour schématiser, les pays latins sont des pays de droit écrit, les pays anglo-saxons sont des pays de droit coutumier. Bon, l'exemple le plus parfait, c'est la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, droit coutumier, et le voisin immédiat, la France, droit écrit. Bon, c'est deux conceptions différentes du droit. Mais finalement, ça semble très différent, droit coutumier écrit ou pas écrit, même s'il est coutumier, il existe. Il existe. C'est-à-dire qu'en France, on se réfère à c'est écrit là, à tel endroit. Alors, bon, c'est bidon, ça c'est un autre débat. C'est évident parce que comme c'est une écriture en figurique à double entrée, triple sens et tous les mots sont polysémiques, c'est-à-dire que bon, c'est un trapecouillon, la constitution française, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Bon, donc c'est finalement...
C'est coutumier, c'est ça que tu veux dire. Il y a la coutumier.
Mais, oui, mais au moins en Angleterre, c'est coutumier, c'est-à-dire que tu peux pas dire n'importe quoi. Attention, parce que t'as quand même la chambre des lords, machin, ils te disent, attendez, vous dites un truc là, mais c'est contraire à ce que, enfin, c'est un peu comme la jurisprudence, c'est quand même contraire à ce qu'on a fait il y a 20 ans là, il y a un problème là, c'est, non, on fait pas ça. Bon. Tandis qu'en France, il y a une constitution, alors on croit qu'on est vachement garanti, t'es garanti que dalle, parce que la constitution est tellement polysémique que le mec qui est au pouvoir, hein, bon, il lui fait dire ce qu'il veut et il prend n'importe quel type de loi. Et on le voit aujourd'hui, on a une illustration parfaite de cette réalité. Donc, finalement, le droit coutumier anglais, c'est un droit qui, d'une certaine façon, est plus solide. Il n'est pas écrit, mais il est vachement réel.
peut peut-être moins faire un pass sanitaire si
ah bah, ça
il contre certaines valeurs.
Il est incontournable, parce que t'as les mecs à perruque qui se lèvent, ils disent non, attendez, non, c'est pas possible. Hein. Pourquoi c'est pas possible? Alors, en France, ils disent c'est possible, j'ai écrit dans la Constitution. Non, mais attendez, les sages, ils ont dit que ça voulait dire ça. Ah oui, oh, excusez-moi, j'avais mal lu. Bon, voilà, et puis hop, c'est réglé. Tandis qu'en Angleterre, les gars, ils te disent non, on a toujours fait comme ça, hop, non, on change pas. Et quelque part aussi, les Américains, c'est pareil, essaye de changer le premier amendement américain, tu verras un peu, je peux pas changer, même Sleeping Joe, il le change pas, il peut pas. Hein.
Et du coup, nous, on se positionne le programme là du parti, il rentre dans aucune case, du coup. Enfin, c'est une démocratie, on va pas dire c'est une case, mais du coup, il n'y a aucune représentativité, aucune démocratie.
Ben, disons que bon, là, c'est pour dire, poser de façon très claire. Comment nous, on nomme le système. Le système français, le système mondial. Nous, on le nomme oligocratie. Voilà, on ne nomme pas... démocratie, on ne connaît pas.
Oui, c'est ça.
Voilà, non. Démocratie, c'est pas ça. Votre truc, votre système politique, ça s'appelle oligocratie. Alors, vous voulez qu'on vous explique? On vous explique. Voilà. Et là, tu déroules tout ton truc. Voilà. Pour l'instant, c'est pas un débat politique, polémique. C'est, vous êtes une oligocratie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, bon, ça c'est autre chose, mais ne dites pas que vous êtes une démocratie.
Oui, mais ça veut dire que, c'est-à-dire qu'on leur reste pas le terme, donc parce que nous on dit qu'on est une démocratie, mais on peut juste rajouter direct derrière, et du coup, ça.
Alors.
Ça dit plus à portée, tu vois ce que je veux dire.
Alors.
C'est-à-dire, si on leur laisse le terme démocratie, que nous on se nomme autre chose, mais avec un seul terme, tu vois.
Alors, justement. Démocratie directe, c'est un pléonasme. On est obligé de dire démocratie directe parce que vous nous avez volé le mot. Ça va être pareil pour décroissance inéluctable. On ne devrait pas dire décroissance inéluctable, on devrait dire décroissance. Mais on est obligé de dire inéluctable parce que décroissance, voilà, quelqu'un nous l'a pris et a donné un autre sens. Donc, démocratie directe, normalement, directe, ça doit, l'adjectif, il doit petit à petit, il a vocation à disparaître. La démocratie, c'est la démocratie, il n'y a pas de démocratie directe, semi-directe, trois tiers direct, deux tiers direct, mélange de
un mélange. Oui, mais bon, aujourd'hui, tant que les gens ne les mettent pas en prison pour leurs idées, c'est une démocratie, c'est ça, dans la tête des gens.
Non, mais si, il y a deux modèles. Bon, après. Et le modèle est plus ou moins pur, où il y a plus ou moins de porosité entre les deux modèles, c'est plus ou moins mixte. Il y a un modèle type qui est l'oligocratie, hein, et puis il y a un modèle type qui est la démocratie. La démocratie, c'est tout le peuple assemblé qui fait les lois, il n'y a pas une loi qui se fait si ce n'est pas le peuple assemblé qui l'a faite. Voilà, c'est le modèle type. Un autre modèle type, c'est il y a 300 mecs qui font les lois, terminé. On les vote une fois tous les 5 ans, mais c'est toujours les 300 qui... Bon, voilà. Et puis, à partir de là... Bon ben, on voit si c'est bien de faire des mix entre les deux ou pas. Mais déjà, on est bien d'accord sur les mots et donc finalement sur les modèles. Voilà, pour que.
Mais on n'est pas d'accord sur les mots au point de vue débat télévisé. C'est toujours ce que je vous dis.
Ouais.
Parce que débat télévisé, c'est démocratie. On est libre de penser ce qu'on veut. Il y a la liberté de la presse. On vient pas te chercher toutes tes idées. Voilà. C'est ça la démocratie, quoi, dans le.
Oui, mais alors justement, ce qui peut être une arme pour nous, c'est parce que sur ce plan-là, disons de l'étymologie démocratie, on peut pas nous contredire, tu vois. C'est si on cherche des angles d'attaque pour l'oligocratie capitaliste croissanciste, on peut déjà leur dire vous n'êtes pas une démocratie. Et là, on peut seriner ça et revenir et repartir en boucle avec des arguments qui sont absolument irréfutables. Ça n'est pas une démocratie. Alors, vous nous dites peut-être que la démocratie, c'est pas possible, etc. Mais arrêtez de nous dire démocratie. Vous n'êtes pas une démocratie. Vous êtes. Alors, Jean-Jacques Rousseau, lui, il disait il y a trois types Bon, Jean Rousseau, mais Spinoza l'avait dit avant, il y a trois types d'exercice du pouvoir. Il y a la monarchie, il y a alors l'aristocratie, il appelait ça l'aristocratie, et puis la démocratie. Donc l'aristocratie, c'est une autre façon aussi d'appeler l'oligarchie ou l'oligocratie. C'est l'exercice du pouvoir suprême, c'est-à-dire celui de faire les lois, et qui est exercé par un groupe restreint de personnes. Donc, ça date quand même d'avant la Révolution française, puisque Rousseau, il a écrit son contrat social avant la Révolution française, et on avait déjà ce concept-là d'aristocratie qui apparaissait alors que il n'avait pas été encore mis en place, mais il pressentait ouais. Le jour où on allait foutre en l'air la monarchie, on risquait de s'enquiller une aristocratie, voilà. Donc c'est intéressant.
Mmh. Alors du coup, on en avait déjà parlé quand on avait parlé du référendum. Ouais. La démocratie directe, là, la Suisse, ça peut être un exemple un petit peu, même s'ils ont des représentants.
Ah ben disons que ce sont des éléments de démocratie directe.
Localement pour les lois locales, c'est ça?
C'est les systèmes mixtes. Alors aujourd'hui, il y en a qui parlent de démocratie semi-directe. Voilà, semi-directe, c'est-à-dire on instille un petit peu. D'ailleurs, même les Macron, macronistes, là, la suite du grand débat, ça c'était le grand truc. Ne pensez-vous pas, chers concitoyens français, qu'il serait bon d'instiller un petit peu de démocratie, démocratie directe, voilà, démocratie directe, voilà, dans notre démocratie. Alors, du coup, ça ne veut vraiment plus rien dire, tu vois, il faut instiller un peu de démocratie directe dans la démocratie. Voilà. Toutes les nuances ensuite sont possibles. Mais alors, le programme, lui, pour la croissance, du coup, on n'est pas sur une démocratie directe, hein. Ah, bien clair. Hein. Oui. Le problème, la présence, c'est le programme. Bon, il y a un système oligocratique qui reste tel qu'il est. On n'y touche pas. Parce que ça serait trop d'un coup, tu vois, on n'y touche pas. Mais on introduit le RLS, qui est un outil de démocratie directe, un simple outil, mais qui est un outil qui permet de ne pas se faire baiser encore par le RIC. Parce qu'au moins, s'ils te mettent un RIC manipulé, rectifié, réécrit par la caste au pouvoir, ça va être de nouveau un truc, il y a uniquement le président de l'Assemblée qui va pouvoir le déclencher, enfin des conneries comme ça. Donc voilà, c'est tout. Le programme, après croissance, il met un élément fort de démocratie directe, mais ce n'est pas un programme qui installe la démocratie directe. La démocratie directe, c'est beaucoup plus... c'est une lame de fond beaucoup plus importante. On n'en parle pas pour l'instant. Mais simplement, on dit, pour y aller progressivement, on dit, vous n'êtes pas... Alors ça, c'est important. C'est un débat qui... Bon, c'est survolé de temps en temps, mais jamais à fond. Vous n'êtes pas... Bon, nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes en oligocratie. Après, c'est bien ou c'est pas bien, c'est autre chose. Mais il faut bien savoir de quoi on parle.
Mais par contre, il y a quand même un mouvement sur la simplicité des lois. Parce que si on veut faire la démocratie directe, il faut peut-être passer par le fait qu'il y a des grands principes, je ne sais pas, il y en a 10, puis après il y a des lois, il y en a 100, puis après il y a des machins, il y en a 400, je ne sais pas.
Oui, bah c'est.
Simplification, c'est ça, et la
compte. C'est un peu ce qu'essaye de faire le programme pour la pré-croissance, en posant le principe des principes, en disant la Constitution, elle est chapeautée par des principes, et pas par n'importe quoi, comme c'est le cas actuellement. Bon, il y a 13 principes, vous êtes d'accord ou pas d'accord, il faut les changer, mais est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on ait des principes? Voilà. Bon, donc ça, c'est déjà une rupture colossale, qui est une rupture méthodologique, c'est-à-dire que il y a des principes auxquels on ne pourra pas déroger. Ou alors, si on déroge, il va falloir qu'on modifie la Constitution et que tout le monde, que tous les citoyens retournent aux urnes pour savoir s'ils sont d'accord avec l'enlèvement ou la modification ou l'abrogation d'un principe. Donc ça, c'est déjà une rupture.
Oui, mais là, moi, je fais l'avocat du diable, là, par exemple. Oui. Je dis, même là, votre dizaine de lois, là, comment vous la ferez voter de façon démocratie, si tout le monde a les 60 millions, il faut qu'ils soient tous d'accord, ou alors s'ils veulent un amendement, il faut que chacun puisse le faire. Enfin, comment on pourrait faire, là, un parti, là-bas, pour appel des croissances, un programme, avec 60 millions de personnes?
Ça c'est alors là,
sur 10 principes, non, ouais. Juste avec 10.
Là tout le débat sur la démocratie directe, la vraie. Bon. Le débat,
il est donc balance pas possible.
Là, oui, non, mais c'est une marche de l'escalier qui est un peu plus haute. Le débat sur
moi, je pense que c'est possible parce qu'on l'a vécu.
Alors, à ce moment-là,
oui, non, 60 millions, on fait pas, on parle des textes. Hein.
Bon, alors, je vais vous envoyer le programme de démocratie directe et la vidéo de présentation du système de démocratie directe. Et à ce moment-là, on peut mettre à l'ordre du jour de l'intégrer dans le programme. Bon. Tel qu'il est aujourd'hui, le programme pour la pré-croissance, il est édulcoré de la partie démocratie directe. C'est simplement un référendum citoyen très très costaud qui est ajouté au système oligocratique auquel on ne touche pas.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Bon, bien entendu que moi je suis partisan que ce programme ait aussi pour ambition d'installer la démocratie directe, mais je trouve que ça fait trop. Je crois qu'il faut le garder, ça fait trop de coups.
Oui, non, mais moi je pense que quand on ouvre la porte aux gens en disant qu'ils puissent s'exprimer et que ça, qu'ils voient le lien, j'ai envie tous les jours, et que voilà, ils le font. Enfin,
oui.
Moi j'ai vu en 2005 quand les gens ont fait le travail pédagogique pour montrer le lien entre ce qu'ils votaient et leurs conséquences dans la vie tous les jours, et les textes étaient compliqués, et ils étaient longs, et beaucoup de gens s'en sont emparés, quoi. Les gens l'ont lu, l'ont critiqué, etc. Donc, il y a eu la démocratie directe. C'était pas juste un référendum, les gens ont dit non. Il y a eu des mois et des mois et des mois et des mois de prise en conscience de tout ça.
Alors,
et sur un texte compliqué, vu que c'était un truc européen, c'était un truc imbitable et compagnie, partout. Mais je veux dire, je pense que si les gens leur donnent 10 questions, même à 60 millions sur 10 questions, on peut s'en sortir, je pense.
Alors, le débat sur la démocratie directe, la vraie démocratie, c'est-à-dire la vraie démocratie, on l'a eu au début du mouvement des Gilets jaunes. Donc, il y avait deux courants dans les Gilets jaunes, ceux qui voulaient manifester et casser du Macron, et puis un courant qui voulait changer la Constitution. C'était allé bien au-delà du RIC, le RIC, Étienne, bon, il est bien gentil, mais bon, c'était bon. Et donc, voilà, il y a eu donc des débats sur la démocratie directe. Bon, je vous fais passer tout le projet de démocratie directe. Il y a une vidéo d'une trentaine de minutes et puis bon, la constitution nouvelle en démocratie directe. Voilà. C'est trop d'un coup. Voilà. Ceci dit, moi je suis un partisan convaincu de la démocratie directe, totale, mais je pense qu'il faut d'abord passer par une première marche. Et il me semble que la critique de la croissance, la critique de la société où actuelle de son mode de production est quelque chose qui va être plus facilement parlant, que les montages de procédure, les montages constitutionnels. Je me suis heurté, ben oui, je dois le dire, je me suis heurté à beaucoup de difficultés de compréhension des gens devant les mécanismes juridiques. Et puis, il y a un moment, ils décrochent, quoi. Juridiquement, j'ai l'impression que pour changer vraiment un système politique, faut qu'il y ait une grosse secousse. Et que justement la secousse de la décroissance, le jour où les gens se rendront compte que tout ce qu'ils pensaient qui allait être possible, c'est pas possible, il va falloir faire autrement, falloir faire maintenant avec moins et toujours chaque jour un petit peu moins, ça c'est une véritable secousse. Bon, qui peut justement être un terrain, un terreau propice à leur dire mais il faut aussi changer le mode politique parce que c'est justement ce mode politique qu'on a actuellement qui vous a mis dans cette impasse. Voilà en fait le plan le fusil, c'est un fusil à deux coups.
Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on mette dans notre programme de constitution justement que le cheminement devrait être d'aller vers une vraie démocratie, au moins.
Ah ben on le dit ça. On le dit.
On le dit.
Bah oui, on le dit. Puisque dans les axes du programme, il y a la promotion de la démocratie directe. Alors, c'est employé démocratie directe comme terme bouteille à l'encre, hein, démocratie directe, c'est-à-dire voilà, on va mettre du référendum tout ça. Mais à partir du moment où on dit qu'on fait la promotion de la démocratie directe, on ne s'interdit pas à chaque fois d'en mettre toujours un peu plus. Et puis, d'arriver à un moment où, lorsque le terrain révolutionnaire sera mûr, parce que les gens ne croiront plus à ce qu'on leur raconte, on leur dira, mais voilà, il faut mettre un système complet en place. Pour que maintenant les lois, il y en ait moins d'abord, elles soient plus principielles, et puis que ce soit le peuple qui les vote. S'ils ne les votent pas, c'est qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Finalement, on n'a pas besoin de tant de lois que ça.